Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là, jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, l'After qui continue avec vous tous pendant cette période sans football bien sûr, et ce uniquement sur RMC. À la radio, vous le savez, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Jérôme Rotten. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
L'After toujours en radio travail, Pierre Ducrot est là, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra. Il sera avec nous pour le quiz à 23h40 pour le premier quart de finale du Grand Tournoi. Ce soir, le choc au sommet Diaz-Bribois.
Mmh. Oh là.
Mmh. Ça vous inspire?
Pas simple, hein. Bah, ça commence à se durcir. Hein. Déjà que le premier tour, t'es passé.
Je suis passé. T'es passé
comme la Corée du Sud en 2002. Donc,
comme dirait Laurent Blanc, je suis passé cric-crac. Mmh.
Ouais.
Ouais. Moi
je dirais plus que t'avais un Byron Moreno en arbitre, mais
ah bon, ouais, bah écoute, ça fait partie du jeu.
Et c'est comment tu le sens ce soir?
Oh, ça va, plutôt confiant.
Ouais, ça t'inquiète pas quoi, Kevin Diaz.
Ah, je serais plus inquiet quand ce sera contre toi en finale, Jérôme.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà, là, carte finale contre Kevin, normalement, bon, si je joue à mon niveau, ça passe.
Mmh. Ouais, normalement c'est un 7-0.
Alors l'événement ce soir dans l'After, c'est l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot, qui explique qu'il ne faut pas reprendre le championnat. Sylvain Castaneduch, le coprésident de l'UNFP, sera dans l'After dans un petit quart d'heure, et on débattra ensemble au 32-16 bien sûr de cette prise de position. L'actu du jour en attendant Sylvain Castaneduch, et puis à 23h30 on va clôturer notre dossier du 11 type de l'histoire des Bleus, puisque hier Daniel et Jérôme n'étaient pas avec nous. On s'est amusé à le faire avec Pierre, Roland et Lionel. Évidemment, ça a fait énormément réagir. Donc, on va quand même votre avis, quoi. On va vous dire ce qu'on a mis. Vous nous direz si c'est un scandale, pas un scandale. Si le 11 de l'équipe est le meilleur. Bref, on prendra le temps juste de clôturer la boucle comme ça. Après, le gros dossier qui reste quand même le méga dossier du jour. Et donc, c'est les représentants des joueurs.
Bah, c'est le dossier de tout quotidien. Hein. C'est voilà. Tous les jours. C'est fou.
Ouais, bah là, c'est quand même un gros rebond quand même dans le dossier. Oh, en l'occurrence.
Franchement, là, je sais plus ce qui est un rebond tellement. Il y en a eu, parce que derrière l'UNFP, il y a quand même interview d'Olas et réaction de Jean-Pierre River. Excuse-moi, oui, mais il n'y a pas que Castaneduch. C'est alors, ça qui est ouf.
Je vais vous résumer tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais qu'on remercie nos auditeurs qui, les plus fidèles d'entre eux, publient sur YouTube des archives de l'After. Oui, parce que nous, on va dire la vérité, on n'a pas d'archives. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein,
ah
voilà,
bon,
y a pas d'archives.
Moi, je ne le savais
donc
même
on
pas,
perd
je...
des éditions de l'After. La première, par exemple, de 2006. Bon, on l'a plus. Des moments historiques de l'After. La première de Jérôme, par exemple.
C'est fou, ça.
C'est, bah ouais, on n'a pas d'archives. C'est comme ça. Hein, c'est un choix. Mais ouais, on a des auditeurs fidèles qui, eux, font le boulot pour nous, puisque eux, ils archivent et ils mettent ça sur YouTube. Et grâce à ça, notre petit Paul Vexio, il s'est amusé à faire un petit montage, parce qu'il s'est dit, bon, hier soir, Daniel n'était pas là, c'était son anniversaire, tu vois. Donc on s'est dit, quand même, pour fêter l'anniversaire de Daniel, plutôt que tous les jours de poker,
ça se fête.
Plutôt que tous les jours de poker, comme hier soir, qui lui souhaite bon anniversaire, nous, on s'est dit, on va ressortir toutes les dingueries de Daniel depuis 15 ans, tu vois.
Ah oui.
Oh putain, ah bon, vous avez fait ça.
On est tranquille jusqu'à 23h, là.
Mais qui a fait ça, en fait?
Paul, il a fait son petit montage dans son coin. Alors on va
et
écouter.
Quel genre de dinguerie il a trouvé?
Ah bah écoute, on va voir. Hein. Attention, c'est cadeau.
Ah mais pour de vrai. Oh là là.
Peut-être que dans 3 minutes, Daniel aura quitté l'émission.
Oh là là.
Peut-être définitivement. C'est pas.
Oh là là.
Regarde que toi.
Bah non, pas toi.
100% anglais. 100% anglais cette année.
La Ligue 1 mourira.
Attention, SM.
Sadomaso. Non, je vois pas les choses comme ça, Jeannot, tu vois. Moi, je pense que je n'ai jamais tort, mais je n'ai pas toujours raison.
Les mômes qui viennent, Barça, Real.
Même les mômes de 9 ans, j'ai envie de les gifler.
C'est dingue, ça. Ils font quoi, les pères?
Il n'y a pas de c'est correct en matière de pizza. Viens pas me parler du pizza de ton quartier. C'est bon ou c'est pas bon? Basta.
Dans nous quatre, là, s'il y a un mec qui a déjà fait les 3-8, je sors que c'est moi.
Moi, les 3-8 dans l'usine cracotte.
Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça. Et puis, nous, si on avait fait ça. Eh bien, si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé. Ah bah, il aurait glissé son pied dessus.
Ce soir, ils sont nuls du début à la fin.
À Lille, ils...
pas aussi mauvais.
Évidemment. Il est sorti, tiens.
Évidemment, bah oui, il était complètement à côté de la rue.
Ouais, ouais.
On veut essayer des nouvelles choses, c'est très bien, mais tu peux mettre 2-7-2.
Oui.
Salut l'after.
Mais c'est un habitué
bah oui, Dave. Oui.
Comme par hasard aussi, mon fameux raisonnement ne cesse de.
Je comprends pas.
Moi non plus.
Non, bah, je les vois, je t'assure qu'on se fait jamais autant chier qu'en France, hein, ça je te promets.
Ça, je suis un peu doué,
je pense. Je crois qu'il faut que tu regardes moins la piscine et plus le foot alors.
Non. Mais je veux dire, faut qu'il se calme le bonhomme là. Parce qu'autrement, tu vois, je prends ma voiture, j'y vais, je lui mets deux tronches, deux petites claques dans la gueule à ce branleur, d'accord?
Bah, viens.
Mais non.
Qu'est-ce que tu dis, moi?
Petit bonhomme, j'arrive, y a pas de problème.
Mais j'en peux plus de ces supporters aveugles là. L'autre, il lui parle de l'année, Philippe, il lui fait une démonstration, l'autre, il arrive. Mais non, Liverpool, mais va au bistrot. Viens-y au bistrot et arrête de parler.
Arrête de parler.
Le public du stade de France, j'en peux plus. C'est un public de merde. Mais déjà, au bout de 10 minutes, j'ai envie d'étrangler tous ceux qui ont les trompettes à la con là qui font. Mais moi, le jour où on m'oblige à faire l'after le samedi soir, je me casse, c'est pas possible.
Voilà, c'est un petit pot pourri, quoi.
C'est pas mal, franchement, bravo Paul, hein, vraiment là.
J'aimerais pas être ceux qui font l'after le samedi soir. Moi.
C'était une référence au match du samedi soir, hein, Pierre.
Bah, je sais bien. Bon, ouais. Est-ce qu'on est mieux lotis
que c'était les personnes qui le
Et donc, Philippe Lucas, tu lui avais dit retour dans la piscine. Je me souviens.
Je me souviens plus trop, mais oui.
Lui avait dit c'est qui ce petit branleur.
Mais après, il était venu, hein.
Bah oui.
Mais ça s'était bien passé quand tu étais venu. Hein.
Ouais, enfin, moi, j'étais pas présent, mais pareil, quand il rentrait dans le studio, tu faisais moins le malin, quand même.
Absolument pas. Alors là, ceux qui étaient là, si c'est pas des menteurs, ils te racontent exactement ce qui s'est passé.
Ah non, Jérôme Thomas me dit, j'étais là, c'est pas vrai.
Ah bah oui. Non, pas du tout, pas du tout.
Ah non, tu l'as fait qu'avec Duprat, ça. Tu l'as pas quand même fait deux fois.
C'est-à-dire, de quoi?
Non, mais je plaisante.
Mais de quoi tu veux dire, de par rapport à quoi tu dis?
Ah, quand t'allais voir
Duprat.
Et Jérôme, tu vas quand même, excuse-moi, mais tu sais qu'il y a, c'est une légende qui continue, il y a beaucoup d'idiots qui croient ça. Mais tu ça crois va, vraiment, alors moi, Daniel, alors.
Tu vas pas répondre à mes attaques, c'est une boutade.
Voilà. Non, mais je sais que c'est une boutade. Mais il y a des gens qui ont du mal avec cette histoire, et en fait, je la comprends pas trop. Si vraiment, à un moment, moi, je m'étais senti pas bien ou machin, mais tu bosses avec nous depuis assez longtemps et tu bosses dans la télé depuis assez longtemps pour savoir qu'il suffit de couper et de pas le montrer.
Oui, exactement.
Il suffit de dire non.
C'est pour
moi,
ça.
En fait, je voulais montrer. Moi, en fait, je voulais montrer son sketch à lui. La façon dont lui est ridicule, mais visiblement, tout le monde n'a pas compris cet épisode-là. Alors, moi, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, bah tiens, plutôt que d'avoir fait le malin en voulant le faire passer lui pour ridicule, il y a des gens qui pensent que c'est toi qui es ridicule. Bon, bah voilà. Je sais pas. Parce que ce que les gens oublient, c'est que 5 minutes après, il y a eu une interview où on est allé s'asseoir ensemble, où on a papoté, on a rigolé, et tout.
On l'a vu, hein.
Ouais, mais bah, visiblement, il est resté que cette introduction qui, pour le coup, m'a réellement surpris, mais pas au point de, tu vois, de flipper ou quoi. Enfin, tout le monde le connaît, tout le monde sait comment il est, quoi. Enfin bon, c'est une anecdote. Moi, je pensais faire marrer, et il y a des gens qui ont cru que c'était un peu plus que du sketch.
Les gars, bref. Attention, tout le monde se concentre sur la Ligue 1, notamment nos présidents qui tous les jours discutent, se réunissent par visioconférence, donnent des interviews, s'expriment. Ils veulent tous évidemment rendre à nouveau la Ligue 1 great again.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
To make America great again. For all Americans.
C'est un provocateur, on sait très bien.
Il faut aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin.
Au revoir.
Alors là, aujourd'hui, on est vraiment allé plus loin, pour reprendre l'expression de Nasser Al-Khelaifi. Tout ça a commencé ce matin par l'UNFP, qui a fait une grande consultation, hein, vous le savez. Donc je rappelle qu'on aura Kasten Deutsch avec nous dans quelques minutes, Sylvain Kasten Deutsch, et qui donc dit les joueurs ne veulent pas reprendre. Voilà. D'ailleurs, Gauthier Larsonneur, qui était il y a quelques minutes dans l'émission qui nous précède, a confirmé. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter.
Mais comme tout footballeur, je pense qu'on est pour une reprise si tous les
toutes les normes sanitaires sont respectées, mais je pense qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire une reprise du football en étant sûr à 100% qu'il n'y a aucun risque. Donc aujourd'hui, moi, sincèrement, je pense que c'est pas adéquat de reprendre la saison pour le moment. Aujourd'hui, on a la chance en Bretagne d'être plutôt épargné, si je peux me permettre, par le Covid. Maintenant, si nous allons jouer dans la région strasbourgeoise, on sait tous malheureusement comment cette région a été impactée. Moi, j'ai peur de le contracter, j'ai peur aussi de le donner à ma famille, parce que c'est des choses qui sont... aujourd'hui, on maîtrise peu de choses de ce Covid, quoi.
Gauthier Larcelin ne veut pas aller jouer à Strasbourg. Il y a effectivement un Strasbourg-Brest à jouer. Très bien. Moi, je pense que vu qu'il est fort, Larcelin, ce sera très bien qu'il joue avec les gardiens numéro 2. Bon, là-dessus, je continue. Je vous fais toute la journée. Et puis après, je vous donne les infos. Donc, on garde le côté UNFA parce qu'on va en parler avec Sylvain Castanuc dans quelques instants. Là-dessus, on apprend quoi ? Que la Bundesliga, elle, va sans doute reprendre le 9 mai à huis clos. Donc, les autres avancent. Hein. Le 9 mai à huis clos pour les Allemands. Voilà, là c'est une date qui est sortie aujourd'hui. Les Italiens, pendant ce temps-là, avancent également. Les Espagnols disent aujourd'hui accord pour la Fédé pour le retour à l'entraînement.
Donc,
les Espagnols avancent. Ils parlent d'une reprise de la Liga fin mai pour finir fin juin. Donc ça, ce sont les infos du jour à l'étranger.
On en reparlera fin mai et fin juin, tiens.
Pardon ? On verra.
On en reparlera fin mai et fin juin.
Oui, bien sûr, Pierre, mais je donne les infos.
Parce
du
que
jour.
Pendant que ça sort dans les médias, dans les clubs, les contrats sont signés en disant que pour l'instant, il n'y a aucune raison que l'entraînement reprenne, que rien n'est réuni pour.
En Espagne.
Donc, en Espagne, oui. Donc, info très contradictoire.
Au moins, ça parle d'une seule voix. Après, que ça reprenne ou pas, qu'il y ait des problèmes, tout ce que tu veux, aucun problème. Mais dans aucun pays, c'est le même bordel. Au bout de 24 heures, tout le monde se met d'accord.
Alors, j'en reviens à ce qui se passe aujourd'hui. 14h26, communiqué de la Ligue qui entend l'UNFP, qui se dit depuis quelques jours c'est les présidents. Et là, la Ligue dit arrêtez maintenant, stop, terminé, plus personne s'exprime. Il y en a marre, c'est pas dit comme ça. Hein. Mais en gros, ils disent écoutez, le bureau du conseil d'administration a voté le 10 avril pour un projet, voilà, on le maintient. La LFP attend maintenant les modalités de confinement et la LFP attend également les recommandations de l'UEFA. Donc, en gros, les autres, taisez-vous, il n'y a rien à dire. Là-dessus, Jean-Michel Aulas. On lui dit de se taire. Lui,
parle,
qu'est-ce qu'il fait
évidemment.
Il s'exprime. Donc, il donne une interview qui va apparaître demain dans l'équipe. Alors, interview assez mesurée, d'ailleurs, de Jean-Michel Aulas. Il dit, moi, ça fait un moment que je sens qu'il va y avoir de grosses difficultés pour cette reprise. Je vous prends le meilleur moment. Hein, il dit, moi, tout ce qui peut permettre de terminer la compétition, ça me va. Voilà, il faut peut-être...
Donc là, c'est un peu contradictoire, là, déjà.
Oui, oui.
Hein. C'est difficile, mais j'ai envie de finir, ce qui est déjà nouveau parce qu'il ne voulait pas finir au mois de mars.
Exactement. Là, il dit, maintenant, peut-être que ça vaut le coup d'étudier la proposition de Jean-Pierre Rivère, qui, je le rappelle, proposait lui, et on avait bien rigolé, pour être honnête, d'enchaîner la fin de la saison en septembre et la suivante à partir de fin 2020 jusqu'à fin 2021. Il dit, moi, je peux y être favorable si l'UEFA est d'accord, parce que n'oublions pas que l'UEFA est la tutelle, dit Aulas.
D'accord.
Et donc, la Fédé, parce que la Fédé, il est vice-président de la Fédé. Et il dit, demain, parce que demain, c'est le cas, le groupe de travail sur les scénarios de crise se réunit, il faudra intégrer ces scénarios de reprise, je l'espère, etc., dit Aulas. Là-dessus.
Mais on se rend compte que c'est tout et son contraire dans la même interview, mais pour beaucoup de présidents, puisque tout le monde s'exprime, dit des choses, il faudrait ceci. Mais à la fin, c'est toujours ce que la Ligue finalement dit dans son communiqué. Mais si l'UEFA dit quelque chose, mais vous voulez pas simplement, parce que nous, le soir, très franchement, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu dans cette période de confinement. On voulait faire des choses, des souvenirs, des vieux trucs de foot et tout. Il n'était pas prévu, on ne s'attendait pas à ce que tous les soirs on parle de ça, tu as envie de leur dire, mais les gars, vous ne voulez pas juste attendre l'UEFA, c'est jeudi maintenant, vous ne voulez pas nous laisser faire nos vieux souvenirs de foot, des 11 magiques, les chapeaux, les trucs, vous êtes vraiment obligés d'afficher cette image absolument lamentable, parce qu'à ça, après il faudra parler des salaires, de l'embrouille entre Jean-Jacques Henri Hérault, Payet Mandanda,
je ne suis pas contre un peu d'actu tous les soirs. Hein, tu vois.
Non mais, d'accord, j'ai bien, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, tu t'entends bien, enfin, voilà, vous voulez pas attendre que de toute façon il y a des autorités qui vont s'exprimer. Vous voulez pas regarder ce qui est en train de se passer à l'étranger.
Héros, c'est Jacques Henry. Hein, c'est pas Jean-Jacques Henry.
Vous savez que de toute façon vous ne pourrez pas prendre une décision pareille. Vous ne pourrez pas décaler le calendrier comme ça. D'ailleurs, Jean-Pierre Rivière le dit. Ah oui, mais c'est peut-être
passe
une bonne idée.
Passe le ballon à Jérôme Bretagne. J'en étais pas encore à Rivière. Il y a des étapes avant. Pardon. Tu vas voir.
Non, mais en fait, pour parler là où c'est dans la continuité de ce que disait Daniel. Et au bout d'un moment, tu peux t'exprimer, et on le dit, on le cesse de le répéter depuis maintenant plus d'un mois. On est au jour le jour, on ne sait pas, après le déconfinement, encore quand t'entends le Premier ministre hier, tu ne sais pas comment ça va se passer, comment les groupes arriveront à retravailler ensemble, les joueurs qui soient sécurisés déjà dans un premier temps, parce que le plus important à l'arrivée, c'est même pas l'UEFA qui va donner c'est le 23, c'est ça,
c'est jeudi, ouais. On y est quasi là.
C'est même pas l'UEFA, parce que quand t'entends Seferine, moi j'ai lu l'interview de Seferine, lui il veut absolument que tout reprenne pour finir,
bien sûr.
Ouais, pour finir ses compétitions. D'accord, ok, mais il n'y a pas de souci, on est tous pareils, et moi je suis pas acteur aujourd'hui, je suis là, je suis le foot me manque, c'est sûr que le foot me manque, et je préfère faire des émissions pour parler de l'actualité plutôt que ressasser des trucs qui se sont passés il y a quelques mois ou quelques années. Mais le problème, c'est que si les acteurs, et là je parle des joueurs et des entraîneurs, parce que les entraîneurs aussi, il y en a qui sont réticents à reprendre, mais si les joueurs trouvent qu'il n'y a pas assez de, ils sont pas assez en sécurité, que les normes sanitaires sont pas respectées partout, parce que c'est infaisable par rapport à ce qui est la vie d'un footballeur professionnel, et ben tu pourras pas les obliger à reprendre, c'est tout, et de toute façon ils sont impactés au niveau des... Mais non, tu pourras pas, Daniel. Il faudra aller au-dessus, en fait. Il faudra au-dessus. C'est ce que t'as dit. C'est ce que l'État, nous, la France, ce que Macron et son gouvernement va décider de mettre en place avec les gens de la santé pour essayer de sécuriser tout le monde, rassurer tout le monde. Ce qui va se passer dans les autres pays aussi européens, parce qu'il y en a qui sont en avance. Mais
on va débattre après.
Pour le côté,
c'est vrai qu'on continue les infos du jour, parce qu'il y a encore plein de choses. Très vite,
avant les infos. Ouais. Non mais pour le côté sanitaire, là aussi, il faudrait que les gens arrêtent de s'exprimer de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Tout le monde veut jouer au médecin aujourd'hui, mais personne ne l'est.
Avant, il y avait 60 millions de sélectionneurs, maintenant il y a 60 millions de médecins.
Et en plus, même depuis le début de cette crise sanitaire, même au sein des médecins, et pourtant de très grands médecins, les avis sont divergents. Certains ont eu tort puis raison, d'autres raison puis tort. Aujourd'hui, rien ne dit honnêtement que tu sois plus en sécurité au mois de juin qu'au mois d'octobre, parce que tu n'auras certainement pas de vaccin. Donc c'est quoi l'histoire? Tu ne reprendras jamais, tu ne prendras plus jamais un risque dans ta vie. En fait, le truc, c'est que
c'est pas ça. En fait, je pense que
les mecs arrêtent de parler ça.
Non, mais c'est une façon de rassurer tout le monde. Et quand t'entends l'Arseneur là, à Brest, il y a plein de joueurs, parce que lui prend la parole aujourd'hui. Il y a plein de joueurs qui pensent comme lui, qui dit bah ouais, mais si on va nous faire jouer dans des endroits où il y a eu beaucoup de foyers, où ça a beaucoup été touché, nous on n'a pas envie d'y aller. Oui, mais il y a une façon de mettre des choses en place, de les rassurer.
Mais si les mecs jouent pas et veulent pas jouer, comment tu vas payer les salaires?
Ils vont refuser.
Ils diront ok, on n'est pas payé, ou la collectivité publique va continuer à payer à travers le chômage partiel pour des footeux qui ne veulent pas reprendre, alors que la France entière va se remettre au travail.
Au bout d'un moment, c'est pas possible.
La
France entière n'est pas du tout au travail.
Elle va s'y remettre.
Tu sais quoi? Quand la France entière va se remettre au travail, on parlera du football aussi en même temps. C'est tout.
Top. S'il vous plaît.
Stop, on dit une phrase, faut stopper aussi.
Oui, c'est
Pierre, il avait le
droit. Je me tais depuis un quart d'heure, on dit une phrase, faut se taire.
Alors Daniel et Jérôme, stop, et Pierre finit ta phrase, parce que là on est déjà en retard et
c'est fini, c'est bon.
Très bien. Et ben on reviendra après, Pierre, sur tout ça, parce qu'on a le temps de débattre jusqu'à minuit sans problème. Juste, je finis quand même pour vous dire que Seferine, lui aussi, s'est exprimé aujourd'hui pour nous dire attention, on ne peut pas ne pas se permettre de ne pas finir les championnats. L'impact serait terrible pour les clubs. Voilà ce que dit Seferine. Et puis en plus, le foot aujourd'hui, dans ces moments difficiles, ça apportera du bonheur aux gens. Donc lui, il déplace un peu le débat sur le côté un peu émotionnel. Et puis, puisque les présidents doivent se taire, comme l'a dit la Ligue, il y en a un autre qui s'est exprimé. Donc c'est Jean-Pierre Rivière, tout à l'heure, team du gars, qui dit ah ben tiens, c'est marrant, Jean-Michel Aulas maintenant il...
Oui, parce qu'ils sont opposés dans les discussions, ils étaient opposés jusque-là. C'est pour ça qu'il était ironique à ce sujet, parce que pour l'instant, ils avaient plutôt été opposés. Mais encore une fois,
parce que là, il y a Sylvain Castellut qui nous attend, donc on va le recevoir dans quelques secondes. On fait l'interview avec lui et ensuite, on aura tout le temps de s'exprimer jusqu'à minuit. Pierre, ne te sens pas frustré, tu auras tout le temps, dans quelques minutes bien sûr, et te poser également les questions que tu veux à Sylvain Castellut. A tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Roten, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Sylvain Castanuch arrive dans quelques secondes. Hein. Donc il a publié avec le Monde aujourd'hui une tribune, donc dans le Monde qui est datée de demain. Renonçons à une reprise précipitée et dangereuse du championnat de foot, dit Sylvain Castanuch. Alors il va nous l'expliquer plus en détail, mais enfin c'est pas lui qui s'est réveillé le matin en disant il faut arrêter. C'est suite à une consultation qui a été faite auprès des joueurs par le syndicat que tout cela est sorti. Les résultats ont été compilés ces derniers jours par l'UNFP et la tendance donc massive était à un arrêt de la compétition. On va en parler avec Sylvain Castanuch dans quelques instants et vous verrez que l'UNFP propose aussi des solutions économiques. Hein. Alors viable, pas viable, on en débattra ensemble avec Sylvain Castanuch qui est avec nous. Bonsoir.
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 Co-président de l'UNFP, bien bon, sûr, enfin, Sylvain Castanuch. Alors donc Pierre Ducrot est là, Sylvain, Daniel Riolo et Jérôme Roten. Voilà.
Très content de passer ce moment avec vous.
Donc vous avez deux anciens adhérents là qui sont là.
Qui payent plus la licence.
Non, on est redevenu adhérent depuis que Philippe Pierre nous a appelé l'autre jour.
Hein, Jérôme. Ah, oui,
on savait pas qu'on pouvait encore l'être. On est mince.
Donc là, vous vous êtes dit que l'UNFP n'avait pas changé, alors, si vous avez eu Philippe Pia, c'est ça?
Ah, bah non, parce qu'attention, parce que Philippe Pia, qu'on a eu il y a 10 jours, il n'est pas tout à fait le même discours que celui d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de vous avoir.
D'accord.
Donc, je disais qu'il y a cette tribune dans le Monde aujourd'hui, qui, en fait, est le résultat de l'étude que vous avez menée auprès des footballeurs professionnels français.
Oui, entre autres. C'est vrai qu'on a fait un sondage vendredi soir et samedi matin. On a eu plus de 1000 réponses très, très rapidement. Donc, ça montre que sur un sondage directement envoyé à nos joueurs, c'est vrai qu'il y a une réactivité et puis une conscience quand même importante. Hein. C'est vrai que c'est dans cette situation de crise qu'on se rend compte quand même que malgré les clichés, bah, les joueurs sont attentifs, sont réactifs, sont soucieux et puis essaient de réagir. Donc oui, on a fait un sondage et donc on a eu 1000 réponses. Et bah, sur ces 1000 réponses, oui, ça a donné des données intéressantes puisqu'on a la confirmation qu'on a trois quarts des joueurs qui craignent la reprise, hein, et le mot est un peu faible. On en a plus de la moitié qui souhaite aujourd'hui, avec les informations dont ils disposent, plutôt ne pas reprendre sur cette fin de saison. Et puis il y en a aussi trois quarts, et ça c'est vachement important, qui ont peur pour leur physique et qui ont peur de se blesser rapidement après la reprise.
Oui, alors ça c'est un autre aspect. Il y a l'aspect coronavirus et puis il y a l'aspect effectivement physique, reprise, dont on va parler dans quelques instants. Est-ce que, pour être direct et aller directement dans le sujet, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les joueurs, en prenant cette position-là, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, dans la mesure où il y a une fragilité aujourd'hui économique qui est patente de tous les clubs de foot, et que si on ne reprend pas, ben on se retrouverait quand même dans une grosse difficulté économique.
Bah pour eux, en plus, pour leur salaire déjà.
Ouais.
Oui, bah pour les salaires, on a avec les dirigeants réglé ça, on règle ça mois par mois, puisque c'est vrai qu'il y a tellement d'inconnus, c'est une situation tellement exceptionnelle et inédite que forcément on navigue un peu à vue, mais en tout cas on voulait mettre un point d'honneur justement à trouver un cadre, à trouver un accord avec nos présidents. C'est ce qui a été fait pour les mois de mars et avril. Maintenant c'est vrai que
et alors pour la suite, comment on va les payer pour la suite alors?
Et ben en fait, on va, en fonction du scénario qui sera choisi, c'est-à-dire soit on reprend la saison et on reprendra un cours normal de relations contractuelles, soit la saison ne peut pas reprendre et alors il faudra revoir avec les dirigeants comment on pourra assurer les mois de mai, juin jusqu'à une hypothétique
reprise. Oui, mais monsieur Castanuch, permettez-moi, je vous ramène à l'interview. Vous publiez quelque chose dans Le Monde qui a fait grand bruit aujourd'hui, où vous dites que les joueurs ne veulent pas reprendre. Donc il n'y a pas de soi ou de soi. En fait, on n'est pas face à une alternative.
C'est plus nuancé que ça.
Ah bah déjà, je vous entends dans la nuance, mais moi, quand je la lis, je dis.
Sylvain, d'abord,
je veux dire ce que j'ai compris. Je veux dire ce que j'ai compris. Donc en gros, c'est on reprend pas. Donc ma question était
aujourd'hui, dans les conditions. Bah,
ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire demain, ça peut changer.
Bah, si toutes les conditions sont pas réunies, personne n'a envie de reprendre comme ça.
Non, parce que
ça sert à quoi de le dire en fait. Ça, je comprends pas. Alors, ça sert à quoi de dire si les conditions sont réunies? Évidemment que les conditions doivent être réunies. Évidemment qu'il y aura des protocoles médicaux, qu'il y aura énormément de choses.
Ah, t'en es sûr toi aujourd'hui, Daniel?
Bah, tu penses.
T'en es sûr que les conditions sont réunies?
Non, j'ai dit évidemment que. Ah
ouais, personne n'en est sûr. C'est bien ça le problème.
Non, mais évidemment que si. Non, mais, alors, enfin, dans ces cas-là, ça sert à rien de parler, ça sert à rien de donner des interviews, alors.
Pour les conditions,
puisque personne n'est sûr de rien.
pour que les conditions soient réunies, il faut un vaccin, les enfants.
Ça sert justement. Mais tu sais quoi, Daniel, si toi demain on te dit tu vas revenir dans un studio avec 30 personnes, tous les 50 centimètres, là vous allez être collés dans 2 semaines ou 3 semaines, et puis vous allez parler très très fort et vous cracher dessus, et limite vous jouez du coude pour faire vos émissions, mais c'est important parce que comme ça vous aurez vos salaires et puis la radio va continuer à vivre. Tu te poses pas des questions avant de reprendre? Si c'est toi qui es concerné, tu te poses pas des questions?
Alors réponds rapidement, je veux que Sylvain Cassonnet puisse s'exprimer, il est là pour ça. Nous on débattra après entre nous.
Bon, je reprendrai à Pierre plus tard, parce que en fait, la question est, je trouve la question de Pierre totalement aberrante, puisque un plan du gouvernement qui sera dévoilé dans les 15 jours, avec un plan de déconfinement. D'ici là, des protocoles pour les entreprises qui vont reprendre seront mis en place, et que en aucun cas il ne sera demandé aux footeux d'aller s'il y a un risque. Donc en fait, c'est un préalable qui est inutile de préciser.
Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Sylvain. Je suis d'accord avec toi, Daniel, sinon, effectivement.
Non, mais en fait, l'intérêt de cette tribune aussi, et j'y tenais, c'est d'essayer d'apporter une vision à un peu plus long terme. C'est-à-dire qu'en effet, il y aura peut-être la possibilité, à la fois sanitaire, et puis toutes les garanties seront peut-être données à très court terme, avec, je ne vous dis pas, l'ensemble de mesures qu'il faudra prendre pour essayer de protéger justement à la fois les joueurs, mais également les staffs techniques, également les intendants, etc. Tous ceux qui tournent à un moment donné autour des joueurs sur une journée, que ce soit de championnat ou d'entraînement. Donc ça, c'est une première quand même réalité qui ne va pas être simple à mettre en place, mais admettons le fait que ce soit fait. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les étapes d'après, c'est-à-dire comment, après 2 mois de confinement, c'est une situation inédite, que ce soit Jérôme ou Pierre, et moi-même, on n'a jamais connu une telle période, et d'ailleurs aucun joueur de foot n'a jamais connu une telle période. Donc comment on va sortir de là, à la fois psychologiquement, parce qu'on sait aujourd'hui, il y a des études qui sont faites, les joueurs souffrent psychologiquement, on a des lions en cage aujourd'hui qui se demandent où ils sont et comment ça se passe. D'ailleurs, pour l'ensemble de la population, c'est déjà comme ça, mais vous imaginez, pour des sportifs de haut niveau, c'est largement amplifié. Ensuite, il y a une période de réathlétisation où il y a plein d'inconnus aussi, et les entraîneurs en premier sont inquiets. Moi, je lis des témoignages là et des
interviews d'entraîneurs. Ils sont favorables à la reprise, majoritairement quand même, les entraîneurs aujourd'hui.
Non, je crois pas.
C'est ce qu'a dit Raymond Domenech.
C'est ce que j'ai entendu. Le problème, c'est qu'on ne sait plus du tout qui pense quoi. Parce qu'entre les dirigeants, quand on entend les dirigeants...
Allez-y.
Laissez-moi juste finir la vision, puisque je vous parlais de réathlétisation. Admettons qu'ensuite, on redémarre un championnat courant juin et qu'on fasse tout pour terminer la saison. Imaginons qu'on y arrive. Je pense qu'après, c'est après, au cas où les joueurs auraient passé toutes ces étapes-là, que les problèmes peut-être les plus importants vont survenir. C'est-à-dire que, imaginons qu'on enchaîne la saison 20-21 pratiquement sans période de repos. Les joueurs seront sortis 2 mois de confinement, 1 mois de réathlétisation, 1 mois à 1 mois et demi pour finir la saison, plus derrière toute la saison 2021 à faire, avec en plus un Euro 2021 en juin de l'année d'après. Mettez-vous à la place d'un international aujourd'hui. Prenons par exemple, j'en sais rien moi, Kylian, Mbappé, puisque c'est l'un des plus connus du championnat de France. Imaginons comment Kylian aujourd'hui va sortir de ce marasme-là. Comment on va lui faire finir cette saison et comment en juin 2021, ce sera toujours Kylian Mbappé comme un avion sur le terrain. Voilà. Le but aussi de cette tribune, c'était de dépasser ce très court terme, de dépasser ces difficultés qu'on partage complètement. Et d'ailleurs, nous, je vous dis, si on nous amène un scénario clé en main avec toutes les garanties à la fois à court terme, mais qu'on nous explique qu'il y aura des périodes de repos pour les joueurs régulièrement dans un calendrier qui va être infernal, et on le voit d'ailleurs dans les autres sports, dans le handball, dans le basket, dans le rugby, ils se posent les mêmes questions. Comment on va inscrire dans ce calendrier jusqu'à l'été 2021 des périodes où les joueurs vont pouvoir se régénérer, vont pouvoir se reposer.
Sylvain Castaneuch, quand vous voyez que dans les pays étrangers, les choses avancent avec déjà des dates de reprise fixées, est-ce que vous parlez avec vos homologues? Parce que nous, en France, là, tout le monde s'exprime dans son coin, mais enfin, on a l'impression que les autres, ils avancent. Et après, il peut y avoir un décalage aussi qui peut se créer là.
Et surtout, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'UEFA? Pourquoi tant de gens, Monsieur Castendutch, pourquoi autant de présidents, autant de voix divergentes, autant de syndicats qui parlent, alors que ce que va dire l'UEFA jeudi pourrait être très important et influer sur nos décisions. Parce que imaginons qu'eux disent il faut reprendre, donc il va falloir se soumettre à la décision ou ne pas se soumettre, auquel cas qu'est-ce qu'on fait pour les places européennes? Si on reprend pas mais que l'UEFA décide de maintenir les compétitions au mois d'août, ça veut dire que les équipes qui sont encore qualifiées pour le mois d'août n'auront pas joué d'ici là. C'est-à-dire, moi vraiment, ouais, j'ai du mal à comprendre. Si ça, j'ai du mal à comprendre toutes les prises de décision. Enfin, pas les prises de décision, plutôt les comment dire. Les,
si c'est ça, Daniel.
Les opinions qui sont exprimées aujourd'hui me laissent, à vrai dire, sans voix. La vérité.
En fait, l'UEFA, c'est pas Dieu, quoi. C'est pas parce qu'ils auront parlé.
C'est une autorité de tutelle, les amis. Si vous dites, sinon je prends pas vos équipes en Coupe d'Europe, vous faites quoi?
Mais comment? Parce qu'il y aura pas que la France qui. Non, mais Pierre, il y aura pas que la France qui sera impactée. Si les autres pays reprennent,
Jérôme.
Mais tu crois que les autres pays vont reprendre?
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de dire que les autres vont pas vouloir alors que tous les autres travaillent et pas nous?
La réponse de Sylvain Castaigne.
Et qu'est-ce qui te permet de dire qu'aujourd'hui la France, si les conditions sont pas réunies comme ailleurs, ne va pas reprendre du tout non plus?
Sylvain.
Pourquoi on discute alors?
Sylvain.
J'en sais rien. Effectivement, t'as raison, c'est une bonne question.
Il y a deux choses quand vous noircissez le tableau sur le fait qu'en France il y a des voix discordantes, etc. Je vous rappelle quand même que sur l'aspect salarial, contractuel, et sur l'aspect juridique, on est le seul pays aujourd'hui à avoir réussi avec les dirigeants à définir un cadre très précis, un cadre qui peut guider à la fois les clubs et les joueurs sur cette dimension-là, ce qui n'est pas neutre quand même, ce qui est quand même, je vous dis, d'ailleurs la FIFPro, le syndicat mondial, a envoyé cet accord à l'ensemble des pays adhérents, 70 dans le monde, pour que justement à la fois les syndicats et les employeurs puissent justement se fonder sur cet accord. Donc ça, c'est le premier point. Ça montre que quand on se réunit, quand on se met autour de la table, on est capable de prendre des décisions collégiales pour l'ensemble des parties. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le deuxième point, je suis désolé, mais l'UEFA, comme le dit Jérôme, l'UEFA ne connaît pas le virus. Elle est comme nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou dans deux jours plutôt, l'UEFA va donner des préconisations. On espère qu'elles seront claires et qu'elles seront avisées, ce qui n'est pas sûr du tout. D'ailleurs, au fur et à mesure de la communication, vous voyez bien qu'elle est de moins en moins claire et que justement, ce qui était vrai il y a 15 jours l'est beaucoup moins. Donc on va attendre, c'est d'ailleurs aussi le sens de la tribune, on va attendre les décisions de l'UEFA, c'est ce qu'on a annoncé, UEFA, FIFA, et ensuite on se réunira et on espère que la Ligue française, comme elle le fait maintenant depuis quelques semaines, va travailler pour étudier justement les différents scénarios. Mais encore une fois, c'est presque pas ça le problème en fait, c'est même pas de savoir si on va pouvoir finir telle ou telle compétition. C'est encore une fois, dans quelles conditions on va amener ces sportifs pour tous ces mois qui vont se présenter, tous ces mois de compétition, comment on va faire que les supporters, que vous, les médias, vous puissiez, pendant tous ces longs mois à venir, pouvoir voir du spectacle et des joueurs en pleine forme.
Alors, Sylvain, j'ai une question sur ce qui se passe en Allemagne. Là, on a eu Kingsley Coman la semaine dernière qui nous expliquait qu'ils avaient repris donc l'entraînement à des tout petits groupes. Est-ce que ça, c'est ce que les Allemands mettent en place, ça te rassure et ça rassure les joueurs?
Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais moi, ça me rassure pas du tout. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on peut que considérer ça comme une préparation?
Les Allemands qui gèrent tout mieux que nous depuis le début, on peut pas, non, même là, il faut qu'on doute de ce qu'ils font, quoi.
Bah, tu sais quoi, Daniel?
Non, mais je trouve la position française extraordinaire.
Si je peux répondre, à ça, moi, pour avoir discuté avec quelqu'un au Bayern Munich, voilà, c'est le club du Bayern Munich, et qui te dit effectivement, c'est génial, nos joueurs peuvent reprendre par 4 ou 5 l'entraînement, mais très à distance, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler le travail physique qu'ils font, ils peuvent quasiment rien faire d'autre. Il y a un petit peu de ballon, mais c'est très léger. Et cette même personne te dit, je ne sais pas comment on va pouvoir s'entraîner convenablement pour reprendre un championnat et jouer, faire des matchs de foot. Et je ne vois même pas comment on va pouvoir reprendre des matchs de foot.
Mais Pierre, est-ce que tu sais qu'au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, rien ne sera réglé quant à la maladie?
Bien sûr,
donc est-ce que donc la seule question
pense,
c'est
non, je sais
la
pas,
seule question c'est est-ce que tu retournes au travail, est-ce que toutes les entreprises se remettent à fonctionner, est-ce que il y a des questions qui sont un petit peu au-delà du foot
mais à poser. Tu as raison, ça concerne tous les secteurs d'activité. Tu as raison.
Et ben alors donc qu'est-ce que tu fais? Tu bloques le pays? Tu arrêtes l'économie mondiale, ne travailles plus du tout, ça va faire une tonne de chômeurs et le footeur il retourne pas travailler?
Excuse-moi de te dire, mais on ne parle pas que du foot, Daniel,
franchement, je comprends pas
de tous les secteurs d'activité, de tous les ouvriers.
Et bien alors, comment tu fais
aujourd'hui,
restent plus personne ne retourne au travail tant qu'il n'y a pas le vaccin. Tant qu'il n'y a pas le vaccin, tu retravailles plus.
Pas forcément.
Sylvain Castaldon, s'il vous plaît, disciplinez-vous. Question courte à Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que vous répondez à Seferine quand il dit, dans ces moments difficiles, reprendre le foot apporterait aussi du bonheur aux gens?
Oui,
mais tout dépend du bonheur, hein. Et puis bon, il a facile à dire de la Suisse là-bas. Hein. Je pense que bon, nous on demande que ça. Je l'ai écrit dans la tribune. C'est vrai que nous, dès que le foot pourra reprendre normalement, dès que les joueurs seront en forme, dès que les stades seront remplis, on retrouvera enfin tout ce qu'on aime. Mais encore une fois, je pense qu'on n'en est pas là du tout. D'ailleurs, encore une fois, si on se place du côté des joueurs, ce confinement, quoi qu'on en dise, il va laisser des traces profondes sur les organismes et dans les têtes. N'oubliez pas que les têtes, enfin la tête et les jambes sont complètement liées. Et quand j'entends Daniel faire des comparaisons avec des salariés lambda, je pense que sans faire offense et la comparaison elle ne tient pas, parce qu'encore fois, pour être athlète de haut niveau, il faut mettre en place des choses. Dans ce confinement, ok, des joueurs ont pu se préparer physiquement tant bien que mal en fonction de l'endroit où ils étaient confinés, mais imaginez tout ce qui leur a manqué pendant cette période, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à côté de l'entraînement, c'est-à-dire les soins, tout ce qui est préparation à la fois mentale, d'accompagnement.
Même le travail physique, etc. Même le travail physique n'a rien à voir.
Bien sûr, même le travail physique n'a rien à voir. Donc vous imaginez ces 2 mois. C'est jamais arrivé dans une carrière qu'un joueur, sauf en cas de blessure, ne s'arrête 2 mois.
Est-ce que vous n'avez pas peur que l'image de Foutu soit dégradée avec toute cette histoire-là?
2 mois, ce sera 6 mois.
Ça renvoie, s'il te plaît, Daniel, Sylvain.
Comment on sera en forme au bout de 6 mois?
J'ai posé une question là.
Je comprends pas.
Est-ce que vous n'avez pas peur que l'image des Foutu soit dégradée avec le message que vous envoyez là? Vous savez
pas. C'est tout le contraire. Enfin, pour ceux qui ont lu la tribune, je pense qu'encore une fois, c'est un message de rassemblement. C'est un message à la fois de tolérance. Nous ce qu'on veut quoi? Enfin, on veut quoi? Nous, on veut un football plus juste, un football plus humain, un football, plus équilibré et plus solidaire. Donc toutes ces valeurs-là, le grand public doit les entendre. Aujourd'hui, on ne peut pas proposer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, pour le moment, envisager le football d'avant et le cadre d'avant. Donc, ne paniquons pas.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est quoi votre destruction créatrice là? J'ai pas du tout compris le concept.
Eh bien, en fait, c'est de se donner le temps. C'est de se donner le temps de ne pas reprendre à tout prix. C'est-à-dire qu'on va construire une période où, en effet, les joueurs vont sortir du confinement.
Mais c'est quoi le temps? C'est combien le temps par rapport à Mediapro, par rapport au salaire des joueurs, par rapport aux salariés dans les clubs? Quel est le temps qu'on leur propose à eux, en fait?
Eh ben, imaginons pour les joueurs, hein. Moi, après, on va étudier l'ensemble de la population et des acteurs, mais si on se place du côté des joueurs, le temps sera venu de proposer, on l'a le scénario à l'UNFP, on ne va pas le proposer aujourd'hui parce qu'on va attendre que la Ligue et que nos dirigeants nous proposent des choses, parce que c'est vrai qu'on attend de ces dirigeants-là un plan qui puisse nous convenir. Si ce n'est pas le cas, on est en train de réfléchir et on a un scénario qu'on pourra proposer le moment venu. Mais il y a trop d'inconnus aujourd'hui encore, et notamment sur la dimension sanitaire, pour qu'on se lance sur des scénarios et sur des projections improbables.
Dernière question.
Et qu'est-ce que vous aimeriez finalement comme conditions sanitaires, qu'on comprenne bien? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait?
En fait, il faudrait qu'on soit sûr que les joueurs puissent s'entraîner normalement. Et ça, évidemment, avec ce qui est prévu, et notamment dans les autres pays, c'est pas le cas du tout. Donc ça va rien arranger, parce que c'est pas en s'entraînant deux par deux dans chaque coin du terrain, en ne pouvant même pas se donner le ballon, etc.
Donc si les autres le font, mais pas nous, c'est pas grave. Si ça reprend dans 4 pays, mais que nous, on reprend pas, c'est pas grave. Si par exemple on n'est pas satisfait,
on ne souhaite pas qu'il n'y ait pas une recontamination dans ces pays-là, parce qu'aujourd'hui il y a quand même aussi cette inquiétude-là, c'est-à-dire que est-ce que ces joueurs-là, même en prenant quelques précautions, encadrés comme ils le sont de toute façon, même s'il y aura un encadrement minimum, comment on va pouvoir assurer à ces joueurs et à l'encadrement une sécurité et une protection qui leur permettra de faire du sport du haut niveau? C'est pour le moment, c'est impossible à envisager.
Dernière question, Sylvain Castaldon. On remarque qu'aujourd'hui, Paris, Marseille et Lyon ont des difficultés à passer des accords avec les joueurs sur les baisses de salaire. Vous parliez de solidarité là, il y a quelques instants. Est-ce que vous trouvez ça logique, ou est-ce que vous êtes étonné qu'on n'arrive pas finalement à trouver des accords dans des clubs où il y a quand même des joueurs qui ont des salaires conséquents?
Non, moi je pense que des accords vont être trouvés. Je vous dis, on a défini un cadre
sur lesquels à la fois les joueurs et les clubs peuvent s'appuyer. Moi, je suis assez optimiste sur la, à la fois la responsabilité des joueurs et puis sur le bon sens des présidents, parce que nous, la seule crainte qu'on ait, c'est que justement certains présidents soient trop, comment dire, trop exigeants avec les joueurs pour masquer soit des gestions
un peu
hasardeuses. Ou alors de profiter, enfin pas de profiter, mais en tout cas de tenter par cette crise de réduire une masse salariale qu'ils ont parfois artificiellement gonflée. Donc on est attentif à ça, mais je vous dis, moi je pense que dans tous ces clubs-là, et on a affaire à des grands dirigeants dans ces clubs-là, je pense que les solutions, ils vont les trouver, et on aidera en tout cas s'il faut pour ça.
Merci Sylvain Kastendutsch, merci beaucoup.
Merci
Sylvain. C'est l'after Sylvain, merci, c'est
Sylvain.
Parfois un peu enflammé, c'est compliqué de mener une interview, mais enfin on essaye. Et on va pouvoir débattre avec Jérôme et Pierre, au revoir Sylvain dans quelques instants, et avec vous au 32-16. Hein. Évidemment de tout ça, on a le temps maintenant de le faire tout à fait calmement. A tout de suite les gars.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten, Pierre Ducrot. Les gars, moi, il y a un truc quand même que je retiens. On n'a pas pu poser la question à Sylvain Kastendutsch, mais dans toutes les grandes périodes de crise, crise mondiale, les guerres et tout, à chaque fois, on s'en sort par la solidarité. Et là, il y a quand même, moi, un truc qui me dérange, c'est que la solidarité, et pourtant, Sylvain Kastendutsch semble la vouloir, mais aujourd'hui, les joueurs de foot, ils font pas un pas vers la solidarité.
Non. Ils font les capricieux. Comment ils vont se positionner par rapport aux ouvriers, à tous ceux qui doivent reprendre.
Oui.
Ils se comportent comme des mecs qui veulent continuer à jouer dans le jardin.
Alors moi, je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Expliquez-moi.
La solidarité, ce serait de dire les clubs font un pas vers les joueurs en disant écoutez, nous, on va tout faire pour essayer de reprendre dans les bonnes conditions, garantir vos emplois, garantir les emplois.
Ils disent pas le contraire. Ils disent pas le contraire, les joueurs.
Alors, si les
conditions sont réunies.
Moi, je trouve que dans la forme, c'est pas un signe hyper positif. C'est-à-dire que dans la forme de dire en arrivant, attendez, nous, dans ces conditions, on joue pas.
Mais tu sais pourquoi, Gilbert aujourd'hui. Parce que si tu le fais pas aujourd'hui, si tu fais pas ce genre de choses, si tu n'es pas représenté aujourd'hui, comme les joueurs on s'en occupe même pas de la vie des joueurs, en fait. Sinon. Là au moins on sait ce qu'ils pensent, c'est-à-dire que si les conditions sont réunies, ils retourneront effectivement comme tout le monde, pas que les footballeurs, comme tout n'importe quel salarié qui pourra aller au boulot avec des conditions sanitaires adéquates.
Je pense que l'opinion de Kastendutsch, le NUFP et les joueurs, elle est pas majoritaire. Moi je lis José Fonte. 90% de la population reprend et pas nous, ce serait un mauvais signal et un manque de respect. Nous sommes habitués aux risques, aux blessures,
c'est notre métier. Mais où 90%
de la population reprend? C'est ça, Daniel, ça qui est pas logique, Daniel.
Mais où 90%, ils sont où les 90% qui reprennent?
Non, mais quand tu auras le déconfinement.
C'est un peu exagéré, mais il y a des usines qui réouvrent.
Il y a beaucoup de gens qui vont reprendre.
C'est un peu exagéré, Gilbert. Tu donnes-moi le pourcentage de la population qui a repris son activité là.
Non, mais les gars, vous pouvez répondre à José Fonte au lieu de. Vous pouvez répondre à ce que dit José Fonte.
Mais pourquoi José Fonte?
Mais il n'y a pas que lui, à Lille par exemple, tout le monde veut reprendre
Daniel.
C'est pas vrai, Daniel.
Tu dis des conneries. J'ai eu des joueurs à Lille, ils veulent pas reprendre comme à Marseille.
Vous êtes des capricieux.
Non, arrête avec tes phrases en plus. C'est toi qui es énervant.
Tu peux pas dire ça, Daniel.
Toute la France va reprendre, mais les fouteux vont rester en retrait parce que c'est des capricieux. C'est pas du tout ça. Mais non,
c'est pas ça.
Personne n'a repris justement.
Si vous voulez que les gens comprennent quelque chose, il faut pas se parler les uns sur les autres. Sinon,
il faut pas faire dire quelque chose aux gens quand ils le disent pas non plus aussi.
Ce qu'on fait, un principe de base d'une conversation, c'est que quand un de vous trois a fini sa phrase, l'autre parle. Mais si les trois parlent.
Tu veux que je te donne aussi, Gilbert, excuse-moi, mais un principe de conversation aussi, c'est que quand toi tu dis quelque chose, l'autre en face, il ne te fait pas dire autre chose. D'accord ?
Tu as raison.
Parce que ça suffit de mettre dans la bouche de l'autre des phrases qu'on ne dit pas.
Tu as raison. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une conversation qui soit intelligible pour le plus grand nombre, puisqu'on fait de la radio pour les gens qui nous écoutent, ne l'oubliez pas. Donc on laisse chacun finir sa phrase sans le couper, s'il vous plaît. Jérôme.
Ben, Jérôme, quoi ?
Tu étais sur les îlots en train de t'énerver, là.
Mais oui, parce que Daniel dit à Lille, tout le monde veut reprendre. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de joueurs et c'est la majorité. De toute façon, Sylvain Kastendutsch, quand il te dit,
je comprends pas pourquoi tu dis non, c'est pas vrai.
on coupe pas la parole.
Quand il y a un sondage qui a été fait et que la majorité ne veulent pas reprendre dans ces conditions-là, mais moi je serai à leur place, je ferai exactement la même chose. Je vais pas, tu vas pas m'envoyer moi au charbon alors que il y a pas les conditions qui sont mises en place, ce qui me paraît logique. Après, dans 3 semaines, le déconfinement, il aura lieu le 11 mai. On verra en 3 semaines ce qu'ils auront l'État, ce qu'ils auront décidé de mettre en place pour différents corps de métier, parce que après vous pouvez me comparer les entreprises ceci, les entreprises cela avec le football. Le football est un sport de contact, Gilbert. Tu vas pas empêcher s'il y a 50 salariés.
Selon certains, un sport d'évitement.
Non, ouais, d'accord. Mais si par exemple nous à RMC, ils te disent OK, vous pouvez reprendre, mais au lieu que vous soyez 50, vous êtes que 20. OK, bah tu vas te plier à ça, on est d'accord. Bah,
comme
tu vas venir avec
dans un stade.
Je te parle pas dans un stade, je te parle un effectif de professionnels. Si tu dis aux joueurs de foot, on accepte 20 personnes dans une certaine société ou entreprise, et que vous, les joueurs de foot, vous êtes une cinquantaine, parce que quand tu prends tous les joueurs, le staff médical et l'encadrement, ça fait une cinquantaine de personnes. Et ben là, tu vas les autoriser comme par enchantement, mais par contre, ils pourront pas s'éviter, hein. Ils pourront pas se protéger parce qu'ils vont se côtoyer. Ils vont se dire, il va y avoir des contacts dans un vestiaire. La vie d'un vestiaire, c'est ça. Sur le terrain, c'est la même chose. Les conditions, elles seront pas réunies pour que le joueur soit en toute sérénité. Et vous me parlez de solidarité. Ça n'a rien à voir avec la solidarité. Si demain, tu leur dis, écoutez, il y a ça qui est mis en place et on vous garantit que de toute façon, en mettant ça en place, le virus, il circulera pas ici. Ah, bah, peut-être que là, peut-être libéré psychologiquement.
Après,
mais aujourd'hui, ça me paraît logique qu'il y ait un blocage psychologique.
Alors,
non, mais attends,
c'est tout à fait logique. Le problème qu'on a, Jérôme, et je pense que vous serez tous d'accord, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de situation idéale avant qu'on ait un vaccin.
Non,
donc,
exactement.
Aujourd'hui, je te prends un exemple très bête. Il y a des caissières qui bossent. On fait tout pour qu'elles soient dans des très bonnes conditions, mais elles ne sont pas dans des conditions optimales parce qu'il n'y a pas d'assurance à 100%. Qu'il n'y ait pas aujourd'hui de transmission de virus. Oui. Donc, il n'y aura pas d'assurance à 100% pour des footballeurs comme pour un ouvrier, comme pour une caissière, avant une éternité. Donc, dans ces cas-là.
Je ne parle pas d'être à 100%, mais entre 20% et 100%.
Et comment tu vas l'évaluer, le 20%, le 30%?
Moi, je ne travaille pas, je ne suis pas à la santé, moi.
Pourquoi.
Toi, Daniel, quand on t'entend parler, écoutez, fermez votre gueule, les fouteux. Vous allez reprendre parce que, de toute façon, l'économie du foot en a besoin. Il faut absolument que vous jouiez. Mais non, mais attends, les fouteux, au bout d'un moment, on entend les dirigeants, on entend l'UEFA, on entend les présidents, on entend ceci, et les agents, et les trucs. Et les joueurs, quand ils ont une parole sensée, qui se sentent en danger, on peut pas les écouter parce que c'est un manque de solidarité. Et vous fermez votre gueule et vous allez jouer au football parce que c'est qu'un sport. Hein. Écoute, ça fait vivre beaucoup de personnes, mais par contre vous fermez bien votre gueule parce que on a besoin que le foot reprenne. Mais non, je suis pas d'accord moi avec ça.
Alors Pierre,
tu seras jamais satisfait, Jérôme, parce que tant qu'il n'y a pas le vaccin, tu seras pas tranquille. Alors, donc en fait, la vraie prise de position, je comprends pas ce que tu dis alors.
Alors Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Je comprends pas ce que vous dites.
Répondre à ce qu'a dit José Fonte.
Je comprends pas ce que vous dites.
Tout à l'heure.
En fait, José Fonte, il a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a aucun souci. Mais déjà, José Fonte, c'est pas 90% des joueurs. Et José Fonte, ce qu'il a dit, c'est si 90% de la population reprend et pas nous, ce sera un mauvais signal. Alors, effectivement, déjà, quand 90% de la population aura repris ses activités.
Et si c'est 60%?
Laisse-moi finir, s'il te plaît, Daniel. On en sera déjà, à mon avis, à une autre étape dans la gestion de ce virus et dans la gestion du déconfinement qu'il y aura eu. Déjà, juste ça, en y connaissant pas grand chose. Comme le dit Jérôme, moi je suis pas un fin connaisseur, je suis pas un épidémiologiste, je suis pas tout ça moi. Mais je constate juste qu'aujourd'hui, on veut faire aux footballeurs qui en plus sont dans un métier qui a certaines spécificités. Vous allez quand même le reconnaître. J'ai un énorme, un immense respect, surtout en ce moment, et je prends des gants pour parler de ça parce que ça peut choquer des gens. Pour une caissière qui doit aller au boulot, pour un médecin qui doit continuer à travailler, pour un chauffeur de bus qui doit aussi continuer à travailler, mais qui lui peut travailler effectivement avec une paire de gants, avec un masque ou avec des masques quand au mieux on leur en procure plusieurs, avec une vitre par exemple en verre devant la caisse pour éviter et effectivement essayer de réunir au maximum des conditions sanitaires pour éviter que ces personnes-là qui sont déjà courageuses et qui se mettent en danger prennent des risques. Comment vous allez faire au foot pour faire jouer les joueurs si jamais tu me parles de 60%, Daniel? Bah tu sais quoi, 60%, même 70% des risques à ce moment-là. Mais comment tu fais pour jouer avec des masques, jouer avec des gants, jouer avec des vitres devant toi? Comment tu fais dans un sport où effectivement tu te postillonnes dessus sans arrêt, tu transpires, t'as des contacts, etc., etc. On parle des matchs, on parle des entraînements tous les jours, hein. C'est pareil. Comment tu vas faire quand ces joueurs vont rentrer, vont avoir effectivement besoin de soins et qu'un kiné va devoir les masser, les traiter?
Et si les protocoles médicaux sont respectés?
Alors déjà, tu rajoutes autre chose, là, Daniel. Là tu rajoutes effectivement. Ouais, autre chose.
En fait, alors, depuis le début, il ne s'agit que de ça. Que... Depuis le début, il ne s'agit que de ça.
Non,
c'est
pour ça que alors, je dis que moi,
ce débat, pour rien, mais bon.
Tu sais exactement les tests, comment ça va fonctionner, que tout le monde va en avoir. Pour l'instant, moi, ce que je sais de sûr sur les tests, c'est qu'ils sont attribués, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, moi, ce que je sais de factuel, c'est que les tests ne sont proposés qu'à ceux qui ont des symptômes, pas aux autres, personne d'autre.
Tout à fait.
Ouais, donc, à un moment donné, arrêtons de dire que les footballeurs doivent faire ce que les autres professions ne vont pas faire.
Dans ce cas,
différence des autres professions, les footballeurs ont quand même des cellules médicales qui nous suivent au quotidien. Hein.
Voilà. Pourquoi tu ne vas pas plus loin, Pierre? Parce que ce serait logique. Avec tout ce que tu viens de dire, si tu vas au bout de ton raisonnement, puisque tu dis le test, c'est pas machin, dis tant qu'il n'y a pas de vaccin, le foot, pour ses spécificités, sport de contact, machin, ne doit pas reprendre.
Pas forcément.
Parce sinon, que je ne comprends pas ce que tu veux dire, alors. Dis-moi quelles seraient les conditions.
S'il n'y a plus qu'un risque très minime dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 5 mois pour reprendre, et avec des tests par exemple plus efficaces, où tout le monde peut y être soumis ou autre chose, je ne sais pas. Moi, je te dis, je ne maîtrise pas assez le sujet pour. Il faudra à ce moment-là appeler peut-être des médecins, et encore, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Peut-être qu'il y aura le moyen de rejouer au foot, comme il y aura le moyen effectivement de reprendre les transports ensemble, comme il y aura moyen peut-être d'avoir des classes de 30 gamins, enfin pas des gamins, mais au lycée ou en fac, sans risque pour le professeur et pour ces gamins-là. Peut-être que les restaurants pourront réouvrir également. Quand t'es restaurateur aujourd'hui et qu'on t'explique que les footballeurs peuvent reprendre, mais que toi, ton restaurant, il va rester fermé, tu réagis comment, Daniel?
Daniel, ne réponds pas, s'il te plaît, parce que j'aimerais que Kevin puisse donner son avis lui aussi. Il a un avis sur l'intervention de Carsten Deutsch, Kevin, au 32-16. Salut, Kevin.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé,
Kevin.
Toi?
Bonsoir, Kevin.
Alors moi je trouve que la communication de Carsten Deutsch est dramatique, pour le foot français, parce que Pierre parlait tout à l'heure des restaurateurs, des cafés, tout ça, mais les gens qui critiquent le football français, qui sont haineux contre le football, mais là on leur a donné du grain à moudre, on leur a donné, mais ils vont s'en donner à cœur joie après de dire les footeux ils ont en fin de compte repris, mais nous on peut pas rouvrir les cafés, on peut pas rouvrir les bars, on peut pas aller travailler.
J'ai pas compris, Kevin, t'as dit quoi? Les footeux quoi?
Les footeux comment? J'ai pas compris.
J'ai pas compris ta phrase, les footeux, j'ai pas entendu, excuse-moi.
Non, j'ai dit que ceux qui ont la haine contre le football, ceux qui n'aiment pas le football, ceux qui critiquent le football à longueur de journée, vont s'en donner à cœur joie. Vont s'en donner à cœur joie.
Pourquoi?
Reprennent leur travail dans ces cas-là.
Et pourquoi?
Donc cette communication est pour moi mais une catastrophe pour le foot français.
Attends, Kevin, non, mais moi je
comprends. Ce que je veux te dire, Kevin, c'est qu'il y a plein de professions qui veulent reprendre, et qui se disent on va tout faire pour reprendre vite, reprendre l'économie, remettre en place les entreprises, etc., relancer tout ça, et que les footeux, eux, ils arrivent en disant nous non. C'est ça que veut dire Kevin.
Parce qu'on commence à comprendre, quand on n'entend pas que les médecins qu'on doit bien écouter, que les suites de cette crise sanitaire dans tous les autres secteurs de la vie humaine, ça sera peut-être plus grave que le médical. À un moment, vous verrez que on va également parler de ça. Hein. De
merci, tout ce qui va se passer
derrière, du chômage, des dépressions, de toutes les maladies qui sont pas soignées à force de prolonger cet enfermement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de pays qui commencent à réfléchir à tout ça. Il y a des philosophies différentes qui commencent à voir le jour. Donc, quand on me tient, moi, ce genre de discours, en plus, venant, et vous savez que de ce point de vue-là, moi, je ne suis jamais démago. Je suis plutôt du côté du foot et des joueurs. Mais quand ça vient de la part de joueurs qui disent « je suis pas sûr », alors qu'à aucun moment, on va forcer quelqu'un s'il n'y a pas un minimum, un plan, s'il n'y a pas un protocole sanitaire, c'est ce que dit la Ligue,
ce qui aurait dû être le message,
la majorité des médecins de club commencent à mettre en place, réfléchissent à ça.
Méfiants. Voilà, le message aurait dû être, nous sommes méfiants. Voilà. Nous
alors que c'est pas ça le message. Le message, c'est
mais
ça.
Mais si,
c'est
ça.
Mais si, c'est ça. Mais si, c'est ça. Moi aussi,
c'est ça. Parce que...
Et c'est exactement ce qu'il te dit. Si jamais tout était réuni sur le plan.
Mais si, mais en fait, c'est
comme ça. À un moment donné, il a jamais dit que si les conditions n'étaient pas réunies, personne ne voulait reprendre. Il l'a jamais dit. Au contraire.
Parce que Gilbert, en fait,
allez, comme il l'a dit, on fera la pause. Vas-y.
Non, mais comme il l'a dit aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui, il y a aucun bon signe et on voit la lenteur, comment ça se développe et comment ça s'améliore, la lenteur. Et pour Castendush et les joueurs, et c'est pour ça que moi je vais dans leur sens, c'est qu'ils se disent, mais attendez, le 11 mai, ça arrive vite. Et comment on va quel plan on va nous mettre en place pour nous apporter de la sérénité, nous sécuriser, même si, comme dit Daniel tout à l'heure, c'est toi Gilbert, on peut pas être sécurisé à 100%, ça c'est une certitude. Ah mais oui. entre rien avoir et avoir peut-être un plan d'ici 3 semaines, 1 mois, qui se mettra en place, qui sera peut-être long, et après il te dit que en fait où il est contre, c'est le plan de la Ligue par exemple, où on a débattu la semaine dernière, c'est de reprendre un championnat début juin ou mi-juin. Ils se disent mais le 11 mai, à partir du 11 mai, mais ça va être trop tôt, et c'est ça qu'il met en avant. C'est pas le fait que les joueurs ne veulent pas reprendre parce que tant qu'il n'y aura pas le vaccin et tout ça, mais c'est pas du tout ça. Par contre, d'un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Jérôme, petite pause et on continue parce qu'on reçoit beaucoup d'appels au 32-16. Je remercie Kevin. Et puis, vous allez voir que l'after s'est organisé aussi.
Je le remercie à dire des conneries, excuse-moi. Hein, quand il dit le football ne va pas ressortir grandi, excuse-moi, c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie.
Jérôme,
écoute
les avis des autres, chacun a son avis.
Mais j'écoute, quand tu dis de la merde, on peut le dire, non ?
Non, c'est un avis différent du tien.
D'accord, ok.
Comme je l'ai dit l'autre fois à Daniel, tu dois te battre pour que chacun puisse exprimer son avis.
On l'a laissé parler.
De l'after. A tout de suite, on continue.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.